Hell yeah, c'est la Web Rock Station d'Indie Times, le Classic Rock Radio. Bonsoir Madame Arock.
Bonsoir les petits, comment ça va tout le monde?
Ça va, tu vas bien?
Ouais, à fond.
À fond, à fond? T'as vu le...
Ouais.
T'as vu les news de la... Les news, elles sont malades en ce moment, quoi. Elles sont dingues.
Ah bah c'est bon, de toute façon la canicule arrive, ça va être bouillant. Hein.
Ouais, ça va être bouillant. Doc Olivier, Last Ride.
Yes, c'est moi.
Comment vas-tu?
Bonsoir tout le monde.
Ouais, il nous fait un petit c'est moi tout petit.
Ouais.
Ok,
bah,
okay
c'est
tout petit.
Ouais.
C'est moi.
Ouais, c'est lui. Ouais. Alors, Madame Arock, vas-y, c'est parti.
Oh là là. Alors, on parle des vilains Live Nation tout de suite ou on attend après pour sortir le Napalm?
Comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Attends après, on va chauffer un petit peu. Commençons par la news de Rage Against the Machine, elle est pas mal.
Elle est bonne celle-là. Bon, alors, c'est vrai que d'habitude, Arag, il aime pas trop quand je mélange musique et politique.
Ça, c'est
mais
clair.
En même temps, si on touche à Rage Against the Machine et à Prophets of Rage, à un moment, on parle forcément politique. Sauf qu'il y a une personne qui n'avait pas compris. Il y a une personne sur Terre qui est fan de Rage Against the Machine et de Prophets of Rage et qui n'avait pas saisi de quoi parlaient les paroles. Et ce qui est drôle, c'est qu'en plus, c'est un fan anglophone. Et à un moment, tu dis, un fan francophone qui ne traduit pas les paroles, il peut ne pas avoir compris que, par exemple, les paroles de Stratovarius qui disent « Hunting high and low », ça veut dire « je chasse en haut et en bas ». Bon, ce n'est pas passionnant comme parole quand tu le dis en français. Eh bien, là, le mec, il n'avait pas percuté que Rage Against the Machine s'était légèrement politisé.
Bah oui, « All of which an American dream ».« All of which an American dream ».
Il n'avait pas compris ce que voulait dire Rage.
Ouais.
Il n'avait pas compris ce que voulait dire Against.
Ouais.
Et il n'avait pas compris qui était la machine.
Voilà, c'est ça.
Du coup, c'est un peu compliqué après pour. Voilà. Donc en fait, il y a un mec qui a un petit peu titillé Tom Morello, le guitariste fondateur de Rage Against the Machine et Prophets of Rage. Rappelons quand même que Prophets of Rage avait été créé pour contrer Trump, quand même. Voilà. Mm-hmm. C'était quand même un groupe qui avait été créé dans cet esprit-là, qui avait fait des concerts de militants. Et en fait, le mec, sur les réseaux sociaux, a envoyé à Tom Morello « J'étais fan jusqu'à ce que tu parles de tes opinions politiques. La musique est mon sanctuaire et la dernière chose que je veux entendre dedans, c'est des opinions politiques. » Alors, le mec, il dit quand même « Si vous continuez à parler, vous allez ruiner votre carrière. » Alors, comment te dire que leur carrière s'est faite justement sur le fait de dénoncer? Et donc Tom Morello lui répond simplement, parce qu'en plus c'est mignon parce qu'il lui a répondu en direct, et ça des fois c'est quand même assez kiffant d'avoir un artiste qui te répond en direct, sauf que ce jour-là il aurait peut-être, alors je dirais pour le fan, il aurait peut-être pas dû parler, et pour nous c'est un plaisir sans nom. Scott, quelles sont les chansons dont tu étais fan et qui ne concernaient pas les conneries politiques? J'ai besoin de le savoir pour pouvoir les supprimer du catalogue.
Ouais, ça j'ai trouvé ça pas mal. Quelles sont les chansons avec ouais, j'ai besoin de les enlever quoi.
Ouais,
j'ai trouvé
ouais.
Cette réponse assez forte, ouais, effectivement.
C'est génial parce qu'en fait tu pourrais éliminer toute l'histoire de Rage Against the Machine et des Prophets. Donc moi ouais, j'ai trouvé ça juste fantastique. Effectivement, aujourd'hui on est, ça y est, c'est évident, la musique et la politique. Littéralement, les artistes américains commencent vraiment à. Bah, ça y est, ça commence à voter déjà avant d'arriver à l'urne.
Il y a déjà. Ice-T a sorti le Black Matter Live notamment, avec derrière, donc il y a un clip et puis un titre. Derrière, avec un message du patron de Century Media, donc du label, qui a quand même qui a placé un message. Ça commence.
C'est en train de devenir énorme.
Voilà. Public Enemy a sorti son single aussi à la va-vite. Vite fait, ils l'ont enregistré, alors que Flame of Life n'était pas dans le dernier album. Et là, il est arrivé direct sur ce, en duo. Enfin, il est retourné, il est arrivé, et ils sont montés là. Là, ils sont tous enragés contre la machine.
C'est parti. Alors, je vous raconte même pas Tom Petty, qui est une de ses chansons, donc feu Tom Petty. Hein. Sa famille a porté directement plainte contre l'équipe de campagne de Donald Trump, puisqu'ils ont utilisé une chanson pour faire un hymne d'entrée ou de sortie de scène de Donald Trump. Je ne sais plus si c'était là.
Donc, c'est bon ça.
Ils ont une plainte au cul en disant « Mais on n'a jamais autorisé Trump, on est totalement contre ses opinions de contre-. » contre tout ce qu'il représente. Donc voilà, la famille de Tom Petty qui, pareil, se joint et qui dénonce. On a Matt Sorum dans un autre style qui nous dit « Je comprends pas, les musiciens sont pas autorisés à monter dans un tourbus. Par contre, le président des États-Unis, lui, peut faire un stade de 20 000 personnes sans imposer les masques, sans distanciation sociale. » Pourquoi nous, on nous interdit les concerts, du coup? Voilà.
Bah ouais. Tu veux qu'on parle de la France aussi, non? Pendant qu'on y est, non? Tu veux qu'on en parle?
Bah, totalement.
Tu veux qu'on parle d'hier? Tu n'as pas l'impression que... Voilà, donc voilà, ouais, vas-y. Tu sais, il n'y a pas qu'aux États-Unis.
Mais, hein. Là, clairement, je ne veux pas jeter d'huile sur le feu, hein, mais là, ils sont confrontés à plusieurs problèmes en France qui vont se percuter. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le Black Lives Matter, il y a les bavures policières et du coup il y a le fait de faire la musique, mais s'il y a deux fauteurs de troubles pendant la fête de la musique, on va se retrouver avec la bavure de l'année dernière à Nantes. En même temps, les gars, pensez à prendre des cours de natation, ça peut vous sauver la vie, hein. Voilà. Donc voilà, c'est un moment, tu vois, c'est un engrenage. Et du coup, t'oses plus sortir. En même temps, t'as le droit de sortir. En même temps, est-ce que tu te mets en danger en allant sur les quais? Potentiellement, oui, quand même. Faut pas être trop con. Vu que tu vas passer ton temps à crier pour couvrir la musique et tu vas postillonner sur tes potes. En même temps, si tu t'en fous, contaminer tes potes, j'ai envie de dire, ça s'appelle de la sélection naturelle. Les flics, ils ont pas forcément envie d'aller bourriner des gars qui sont juste là pour faire la fête. Alors, en même temps, ils ont des ordres qui arrivent d'au-dessus. C'est très compliqué. Je comprends que c'est très compliqué.
Non, mais c'est un... Donc, voilà.
C'est là,
complètement...
C'est un marasme.
C'est complètement ingérable.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un ordre qui est donné. Pas plus de tant de personnes. Les gens font n'importe quoi. S'il y avait une intervention, ça partait au pugilat. S'il n'y a pas d'intervention, on dit, voyez, il y a un ordre, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a plus de loi. C'est un serpent qui se bouffe la queue. Franchement, c'est.
Voilà.
On pourrait soliloquer là-dessus toute la soirée. On n'en viendrait pas à bout parce qu'il y a des arguments, des contre-arguments, des. Voilà. Et à un moment, qui a raison? Écoute.
Voilà. Et là-dessus.
Moi, j'ai fait la fête de la musique au calme. Ouais. Et je ne suis pas allé provoquer ni chercher la merde. Et voilà.
Et voilà. Et là-dessus, on arrive sur Live Nation.
Ouais. Est-ce que j'ai le droit de les couronner des titres de champion du monde, voire champion de l'univers de la fille de puterie? Je pense que là, il y a quand même une couronne qui se mérite. Il y a, enfin, je sais pas, il y a la belle robe de Miss France, tu vois, il y a un truc avec des paillettes et tout. Là, franchement, ils méritent. Live Nation, qui distribue des artistes, qui organise des concerts. Coupez-moi les garçons, hein, si jamais je me trompe, qui se gave depuis quelques années sur le dos des fans, parce que si les places de concert sont devenues aussi chères, c'est parce que eux ils osent tout et que bizarrement, bah, on est assez moutons pour y aller quand même, hein, voilà. À un moment, je pense qu'il va falloir qu'on utilise le pouvoir qui nous est donné de refuser les conditions qui nous sont proposées.
Alors,
Il va falloir le faire en soutien des artistes. Je vous explique. Mmh. Le guitariste d'Exodus a levé le lièvre, en fait. Il a balancé le truc. Je trouve que c'est très courageux de sa part, parce que ce n'est pas un des plus petits groupes qui existent. Et Gary Holt, il a quand même eu une sacrée paire de coronesses pour balancer l'histoire. Les nouvelles règles pour les artistes du rock et du métal. Donc, a priori, ce serait... Je ne sais pas si ça va être appliqué sur les artistes hip-hop et compagnie, mais pour l'instant, ça tape sur les artistes rock et métal. Ils annoncent 20% de moins dans le partage des pourcentages pour les artistes. Une augmentation de la part pour les promoteurs en cas d'annulation, donc sur les assurances. Donc, ce ne sera pas les artistes qui vont avoir une meilleure assurance, ce sera le promoteur. Et dorénavant, un pourcentage à reverser sur le merch. On sait que les artistes récupéraient un peu plus de thunes sur le merch vu qu'ils ne vendaient plus d'albums, puisque tout le monde écoute du numérique et que le pourcentage et la somme reversée pour un artiste sur un album numérique n'est pas la même que sur un album matériel. Donc, les artistes tournaient beaucoup, faisaient effectivement leur beurre sur leur cachet d'artiste et le merch. Donc là, Live Nation a dit, on prend 20% de plus pour notre pomme sur le cachet artiste et on se prend une part sur le merch. Parce qu'ils considèrent que la vie a été dure. Le tourneur considère que la vie a été dure. Mais le tourneur n'existe pas sans les artistes. Il ne faut quand même pas oublier ça. C'est une chaîne. si t'as pas l'artiste qui compose chez lui, qui enregistre un album et qui est créatif, le tourneur n'est rien. Il est peanuts.
D'accord, mais donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Je vais te dire ce qui va se passer. Il va se passer qu'il va y avoir une concurrence. Il va y avoir une concurrence qui va offrir beaucoup mieux que ça.
Moi, j'espère que du côté des artistes vont sortir des personnalités et qui vont se monter leur tour management à eux.
Ils peuvent pas.
Voilà.
Ils peuvent pas.
Si. Si, parce qu'il y a des gens compétents. Il y a des gens compétents du côté des artistes, du côté des gens qui gèrent les staffs, qui gèrent les tournées. Voilà, il y a des petits managers qui méritent beaucoup plus gros.
Oui.
Écoute, aujourd'hui, ils sont en train de cracher à la gueule d'Exodus. J'aimerais bien savoir. Vas-y, donne-moi d'autres groupes que Live Nation gère et qui, eux, vont vraiment faire la gueule quand ils vont voir 30% de leur merch disparaître.
Ok.
Je cite Guns N' Roses, par exemple.
Tu penses que Metallica va lâcher? Tu penses que Lars Ulrich va accepter les conditions de Live Nation? Je pense que Lars Ulrich va les faire trembler, surtout, quoi. Ouais. C'est ça qu'il faut que tu te dises.
Donc, je me dis que Lars, il est justement une des personnes auxquelles je pensais, des personnes très compétentes en business, qui ont suffisamment les reins solides pour se lancer dans la création de leur propre truc. Et effectivement, je pense que Live Nation, je pense que pour moi, ils sont en train de signer leur arrêt de mort. Et tu veux que je te dise un truc? C'est tout ce que je leur souhaite. Ça fait vraiment un moment qu'ils nous prennent pour des jambons.
C'est le système qui est mort. J'ai toujours dit, c'est ce système-là, ce système ultra-libéral qui est scandaleux. C'est ça. Et à un moment donné, je trouve que on en a suffisamment parlé.
Des after show hors de prix, etc. Voilà. Je pense que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. J'espère que ça va revenir au respect des artistes et des fans.
Je vais te dire.
Comme on disait.
Je vais te dire ce que je souhaite. Je vais te dire.
Vas-y, dis-moi.
Je souhaite qu'on revienne au club.
Oui.
C'est ça. Il y en a marre de ces gros concerts là, à 80 000 personnes là, et tu vois rien, t'as un son de merde, tu prends la flotte et tout. Je sais que les petits concerts, bon bah après les places elles vont se vendre en 5 minutes, et puis qu'en même temps, bon c'est utopique hein, ce que je dis bien évidemment, mais à un moment donné, il y a une idée comme ça qui m'est restée à l'esprit quoi. Vous vous souvenez quand Metallica a fait trois concerts le même jour,
oui,
le petit club, j'ai adoré ça.
J'y étais.
Ouais, j'étais à la boule noire moi. Et j'avais adoré ça quoi. Non, j'ai fait juste la boule noire. C'était fantastique quoi. J'avais trouvé ça un groupe d'un tel niveau qui jouait à la boule noire, qui était revenu aux sources, tu vois, c'est ça qui était canon.
Maintenant, on est d'accord.
Mais bon, t'as rien à gagner là-dedans. T'as rien à gagner, bien évidemment. En coût d'infrastructure, t'as rien à gagner. Mais bon, en tout cas, non, je pense que le système.
Passion pour les fans.
Attends.
La boule noire, c'était même pas 200 fans.
Non, on était 150, même pas dans la salle.
150, ouais. Bah oui, je sais. Ah on ouais. était 150. Donc, t'imagines, ils sont capables de remplir 70 000 personnes au Stade de France.
C'est ce que je te dis.
On leur dit, bah.
Mais il y avait autant de monde dehors qu'à l'intérieur. Il y avait toute la rue, tout le boulevard Sébastopol. Je crois que c'est pas Sébastopol, c'est boulevard Barbès, je crois, ou je sais plus quoi. C'était plein. Mais bon.
On peut pas souhaiter non plus de la boule Metallica à la boule noire. Mais on peut.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il faut une refonte du business. Il faut une refonte du business parce que là, vu les conditions imposées, et Gariol sous-entend qu'il y en a qui vont se faire de l'argent encore une fois, quoi. Tu vois, il y a trop d'intermédiaires. Entre l'artiste et le fan, il y a trop d'intermédiaires, il y a trop de gens qui se mettent de l'argent dans la poche pour pas grand chose, quoi. Et là, ça s'est vu. Et le système s'est cassé la gueule. Il s'y attendait pas du tout. Et le système s'est cassé la gueule. Faut le dire. Il s'est cassé la gueule. Voilà. C'est tout. Voilà. Stop. Stop. Donc là, je pense que à mon avis, il y a des groupes qui doivent renégocier leur contrat parce que là, ils ont dû voir ça. Ils ont dit, attends, là, c'est pas possible.
Bah, de toute façon,
les fans, encore une fois, ils vont payer très cher pour voir leur groupe à nouveau.
Scottian a répondu en fait hein, sur ce post en disant que bien entendu, les têtes d'affiche qui drainent le public sur les festoches, eux, bizarrement, ne seront pas impactés par la baisse de 20%.
C'est ça.
Il dit parce que sans eux, il n'y a pas de festoche.
C'est ça.
On y va pour les têtes d'affiche. Et donc, c'est encore les plus petits qui vont se faire avoir.
C'est ça, voilà. C'est
donc,
exactement.
À un moment, il va falloir que les gros se gavent un peu moins. Mais quand on réfléchit, c'est la même chose dans n'importe quel business, en fait. Hein.
Oui, mais Metallica, ils sont intouchables. Metallica sont intouchables. Tu verras, ils leur diront rien. Mais tu mets en track, c'est sûr qu'ils vont se prendre les 20%. Ou Exodus et compagnie, et les autres.
Mais j'entends par là qu'il faut qu'on réfléchisse sur toute la chaîne, pas seulement dans la musique, en fait. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui vient de se passer en France, la crise, etc., qui est-ce qui va se gaver de milliards? On a vu quoi? On a vu Airbus, on a vu Renault, on va voir Aéroport de Paris, etc. Toi, tu es un petit pimpin avec ta petite société indépendante. Tu prends le prorata du nombre de salariés de ces grosses entreprises, tu fais la même demande d'aide pour ton poste à toi dans ta boîte, on t'aidera pas. Et eux, en plus, ils ont le droit de licencier. C'est le monde à l'envers. Donc, à un moment, il va falloir comprendre qu'il faut qu'on arrête de gaver les gros.
Hey, Dis-moi,
il va falloir qu'on soutienne les petits.
Dis-moi, voilà. T'as lu Lénine avant ce soir à 19h ou quoi?
Non, mais à un moment, faut.
J'ai l'impression que t'es dans le bouquin qui s'appelle Que faire, tu vois. Et t'es un peu là-dedans, quoi. Je te dis, il y a un business model qui s'est cassé la gueule. Il y a deux business models qui se sont.
Les petits, il faut qu'ils se fédèrent entre eux.
Attends. Il y a eu la musique, il y a à peu près entre 10 et 15, une quinzaine d'années, où tout a été régénéré. OK. La musique,
régénéré,
le CD.
Comme il gueule, régénéré.
Oui, régénéré, j'ai dit. J'ai pas dit régénéré, j'ai dit régénéré. Donc, je connais pas il gueule, je sais pas ce que c'est. OK.
Tu connais pas il gueule?
Non, je connais pas il gueule. On n'a pas les mêmes fréquentations.
T'as lu Les Musclés, Club Dorothée,
oh là là,
quoi,
mon Dieu, catastrophe.
C'était la petite blonde extraterrestre.
Oui, d'accord, ok, si tu veux. Donc, je disais que.
Et je précise que il gueule n'était pas le mot à trouver ce soir.
On s'en tape. Donc, je continue. Je t'ai dit que le système s'est régénéré en termes de disques, c'est-à-dire que c'était entre guillemets la fin, pas, je ne vais pas dire la fin du CD, mais presque la fin du CD où le CD ne se vend quasiment plus. Aujourd'hui, c'est un excellent support au merchandising, ok, mais dans magasin, ça n'existe quasiment plus. Voilà. Ensuite, il y a eu le CD, voilà, on est revenu à zéro, c'est-à-dire qu'on est revenu au format symbolique du titre, puisque aujourd'hui sur les plateformes, je doute qu'on écoute les albums au complet, on écoute des titres, on écoute des playlists, donc ce qui signifie qu'on est revenu au format 45 tours au départ, titre track by track, on est revenu à un titre, à un single, voilà, t'écoutes un titre.
Et il y a même pas de phase B, quoi.
Il y a même pas de phase B, voilà. Si tu veux, t'écoutes un titre par album, voire deux titres, et je suis persuadé que si tu poses la question aux jeunes qui écoutent de n'importe quel style de musique, peut-être dans le métal, peut-être pas, mais dans d'autres styles, ouais, quel est le nom de l'album? Le mec il saura pas te donner le nom de l'album, il saura te donner l'artiste, peut-être éventuellement le nom du titre, mais pas le nom de l'album, ça c'est sûr. C'est le truc qui voilà. Enfin, à part dans le métal où on est quand même très conservateur. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, il y a le marché du concert. Tu vois bien. Et là, aujourd'hui, il y a un sujet sensible, c'est de taper dans le merchandising, parce que les artistes avaient réussi un petit peu à réimpacter la perte du CD, ok, du titre.
Mais surtout quand on entend les chiffres qui ont été faits par des tournées comme celle de Slayer, Kiss et compagnie, on sait qu'il y a vraiment à taper sur du merch. Et les artistes commencent à être malins, ils développent des petits goodies un peu sympas, autre chose que le t-shirt, effectivement.
Oui, beaucoup
voilà,
de choses.
Client, faut pas se leurrer.
Non, mais qu'il y ait quelque chose à vendre, ça c'est normal, tu vois. Mais que
bien
tu payes cher des meet and greet, faut arrêter, quoi, tu vois. Voilà. Ça c'était, moi j'ai toujours été contre. D'ailleurs, ça a été, je vais te le donner, tu le sais très bien, ça a été mon problème avec Queensryche, tu vois. Le jour où ils me disent, ouais, faut payer $300 pour rencontrer Queensryche, j'ai dit, tu te souviens, c'était la femme de Geoff Tate. Et je lui dis, je crois que là.
Mais oui,
à mon avis, là, je pense que là, tu m'as pas bien regardé, quoi. Enfin bon. Et donc, alors attends. Donc, je termine. Et là-dessus, donc le système s'est planté. System has failed. Voilà, c'est tout. Là, il faut régénérer un système. Ça veut dire qu'il n'y a pas de concert. T'as bien vu, l'État a du mal à lâcher les concerts. Ça veut dire que les tourneurs sont pas en bonne forme. Il y a que les festivals à peu près qui tiennent. La preuve, le Rhemfest va revenir. Ok, super. Le Rhemfest maintient son festival. Très bien. Mais les tourneurs, alors les petits tourneurs, peut-être, mais les gros, j'en doute. Donc je vois pas les petits tourneurs, je les vois pas donner leur accord pour faire des concerts si les gros ne sont pas encore rétablis, quoi. Et c'est ça, je pense qu'elle est là le problème. C'est là le problème. Je pense que le marché il est biaisé là sur ce coup-là, quoi. Voilà. Je pense que là en ce moment, tu vois bien, fête de la musique hier, il y avait tout le monde comme si c'était rien passé. Attends, sans masque, sans rien, distanciation sociale, etc. Non, il y a, tu vois bien qu'il y a un problème en ce moment. Tu vois bien qu'il y a un très très gros problème, quoi. Et là, on le voit bien, quoi. Et voilà, quoi. Voilà.
C'est ça.
Et on a oublié Doc Olivier.
Doc, on l'a perdu. Il est en PLS sur son canapé. Il est sous sa serviette de bain, Sweden Rock.
Ah, ça va me manquer cette année.
Voilà. Donc je termine là. Donc on termine là-dessus parce qu'il y a quand même d'autres news à annoncer. Alors effectivement, le système. Pourquoi le système ne repart pas? Parce que certainement que les gros se sont cassés là. Les grosses sociétés. Après à Paris, ok, très bien. Mais les grosses sociétés américaines, celles qui envoient les groupes. Ouais, ils ont du mal. Donc voilà, quoi. Donc dans combien de temps ça va revenir, je sais pas. Et franchement, je t'ai dit, ça va prendre du temps.
Et comme je disais, pour moi, il y a une boucle. Il y a vraiment une espèce de comment ça s'appelle ce truc? C'est pas l'anneau de Möbius ou un truc comme ça? C'est le mouvement perpétuel, là, le truc qui finit jamais, le nœud ou un truc comme ça.
Ouais.
Pour moi, c'est on aime la musique, on a besoin des artistes, ils ont besoin qu'on achète leur musique et leur merch pour bosser. On a envie d'eux, il faut qu'ils composent. Ils ont besoin de nous pour composer parce qu'on les fait vivre, etc. C'est un cercle vicieux. À un moment, s'il y en a un qui carotte l'autre,
Mais il n'y a que ça. Mais il n'y a que ça. La musique, c'est que ça. Qui c'est qui se fait carotter? C'est toujours l'artiste. C'est toujours l'artiste qui se fait avoir à la fin. C'est lui qui joue sur scène, c'est lui qui compose, mais il y a les intermédiaires qui bouffent. Et ils bouffent beaucoup, quoi. Tu vois, à un moment donné, voilà.
Mais je te rappelle qu'à un moment, c'est comme nous, les pimpins, qui étions censés claquer 180 boules pour aller voir Aerosmith cette semaine ou la semaine prochaine.
Oui, mais quelle est la cote-part? Attends, quelle est la cote-part sur 180 boules, comme tu dis? Quelle est la cote-part pour l'artiste, quoi? Tu vois, je t'assure que tu serais très surpris. Très surprise.
Je sais,
À part si tu t'appelles Aerosmith ou Metallica, bien évidemment. Mais pour les autres, alors on va redescendre un petit peu de niveau. Pour les groupes un peu plus petits, tu serais très surprise.
Tu sais, quand tu vois la différence par rapport, je dirais. Alors après, il y a une histoire de matériel, backline, etc. On est d'accord. Mais ça, le ruban de Moebius. Merci Maximum qui nous écoute et qui me donne la réponse. C'est le ruban de Moebius. Merci Maxime. J'aime bien me faire reprendre par les auditeurs. Moi, je trouve ça très sympa. Oui, je me dis que, à titre personnel, j'irai pas mettre 180 balles, même si j'adore Aerosmith. Basta. On s'est fait un super concert, Olivier, t'es d'accord, quand on est allé voir Night Flight Orchestra?
Oui.
La place, elle était à combien? 35 boules?
Oh, même pas. Je crois que c'était moins que ça. C'était 30, non?
Voilà. C'est ça. C'est ça un concert. Voilà, c'est ça. C'est ça que j'appelle un concert.
Tu sais quoi? Il y a plus de monde sur scène.
Oui, mais ouais. C'est ça que j'appelle un concert. Voilà, 30 balles, tu vas voir un bon concert. 30 balles, ça va. 180 boules, c'est devenu n'importe quoi à Bercy et tout. Faut arrêter, quoi.
C'est devenu abusé.
Ben non, c'est devenu abusé. Et c'est ça. Et c'est le modèle économique américain qui nous avec énormément d'intermédiaires qui prennent au passage des commissions et des commissions et des commissions. Et en fait, ces commissions-là, elles te sont, tu les payes. Voilà, tu les payes. Voilà.
Too much.
Exactement. Ouais. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut une refonte de ce système-là, moins d'intermédiaires. Voilà, je pense que les artistes, à un moment donné, avec les managements, il faut qu'ils réfléchissent à cette histoire, quoi.
C'est ça.
Et avec...
qui se fédèrent, à un moment, pourquoi est-ce qu'ils créent pas leur propre truc? Je comprends pas.
Parce que c'est verrouillé comme marché. C'est très verrouillé, c'est très fermé.
C'est verrouillé, t'as des gens qui ont quand même du pouvoir, on est d'accord.
Mais il y a une autre chose. Mais attends, il y a un autre argument que tu n'as pas cité, que j'attends depuis tout à l'heure, c'est que les salles américaines ne sont pas sûres de réouvrir. N'oublie pas ça. N'oublie pas, les clubs américains sont en train de se casser la gueule les uns derrière les autres, quoi. Il y a énormément de problèmes d'infra. Ils ont des coûts, quoi. Tu vois, ils ont des coûts hors normes, quoi. Le fait d'avoir fermé pendant 2 ou 3 mois, enfin, c'est compliqué pour eux.
Mais tu sais que nous, ils sont en train de trier pour rouvrir en septembre. Je rappelle quand même qu'en France, il y a une alerte enlèvement qui a été donnée pour notre ministre de la Culture, quoi.
Ouais, je l'ai vu tout à l'heure à la télé. Il était au cinéma.
Il est allé au cinéma. Comme ça, il avait pas le droit de parler, sinon il faisait du bruit dans la salle.
Mais voilà
le niveau.
Oui, mais en France, il y a deux. Attention. En France, il y a deux versions. T'as les SMAC qui sont donc budgétisés par l'État, et puis t'as des salles qui sont autonomes, quoi. Faut bien comprendre l'histoire, quoi.
Voilà. Oui, en attendant, bizarrement, t'as le droit d'aller au cinéma avec une personne à 40 cm de toi qui va te tousser dans la nuque parce qu'elle est sur la rangée derrière. Mais t'as pas le droit d'aller dans un concert avec un masque.
Je t'ai dit, je pense qu'ils connaissent la situation des salles et des trucs. Je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème qu'on nous dit pas. Il y a un problème qu'on nous dit pas. Je te dis, il y a un problème avec les salles.
Tu sais quel est le problème?
Non, je sais pas.
Pour moi, c'est que du lobbying. L'économie artistique française, si tu cumules la musique, le cinéma, le théâtre, tous les arts, l'impact économique est plus important que l'automobile. C'est énorme. En fait, on se rend même pas compte de ce que ça représente comme volume de fric dépensé et investi par an.
Moi, je pense
c'est ça qui est énorme, en fait.
Mais attention.
En fait, on s'en rend pas compte. Pourquoi? Parce que c'est plein de petites entités qui sont chacune de leur côté, et que quand t'as Monsieur Renault ou Monsieur Veolia ou Monsieur je ne sais pas qui arrive et qui tape du poing sur la table, ça impressionne beaucoup plus que si c'est effectivement Monsieur Bataclan. Quoique Monsieur Bataclan, on en a parlé la semaine dernière, c'est quelqu'un d'important aussi.
Donc voilà, donc on va terminer sur ce sujet-là. Faut pas oublier aussi les équipes techniques qui sont derrière les groupes. Faut pas les oublier, qui à l'heure actuelle ne travaillent pas. Faut pas les oublier.
Non mais adopte un rodi, quoi. Franchement. Franchement, c'est important. Il faut et tu vois, moi il y a un truc que je fais. Quand je sors des concerts, je passe à la console.
Il a raison, ton pote Maxime. Il a raison, ton pote Maxime.
Quoi?
Le nœud à l'infini. Elle va jamais s'arrêter, elle.
C'est ça, exactement. Appelle-moi Moebius. En plus, c'est un mot que je trouve joli à prononcer. Non, je dis juste que moi, quand je sors d'un concert, je passe à la console. Exactement. C'est pour ça que j'aime bien, en plus. Je passe à la console et je remercie les techniciens, son et lumière.
Ok, ouais, faut penser aux Técos, effectivement, ouais, faut penser au
Exactement.
Sandman. Ouais.
Chose qu'on en avait parlé, faire Bond sur scène puisqu'il leur amène des bières pendant le show. Tu
ouais,
vois, ils
ouais.
savent que sans les Técos, ils sont rien. Et ouais. moi, je trouve que voilà, c'est un tout. Mmh. Il faut qu'on en prenne conscience.
Mmh. Doc, voilà. Allez, Doc, une petite news, s'il te plaît.
Petite, hein, oui. parce que j'arrête pas de causer.
Oui, bah, petite, hein, parce que ça fait 25 minutes et j'ai pas ouvert la bouche. bah, moi, j'ai fait la fête de la musique. J'ai fait la fête de la musique à la maison. J'ai regardé le concert de Trust hier soir. C'était une petite demi-heure en direct. Franchement, j'ai été surpris. Il n'y avait pas les chœurs. Ils ont envoyé pas mal de nouveaux morceaux. Ça, c'était très sympa à regarder. Et je les ai trouvés en pleine forme. Donc voilà, j'ai profité de la soirée du 21 juin, non pas en plein milieu de Paris à faire le Zoulou avec des milliers de personnes, mais j'ai regardé avec beaucoup de personnes ce petit concert de Trust, cette mise en bouche de Trust qui non, était pour le moins sympathique.
Attends, toi t'as fait de la musique, tu l'as fait samedi avec Chris Garrel, vous avez chanté.
Oui, on a chanté aussi, mais nous on a chanté le 20, on était un peu en décalé parce qu'on n'est pas sur le même fuseau horaire, c'est pour ça qu'on a des difficultés avec Chris, mais... Oui, on a chanté avec Chris et on a passé une excellente soirée avec Chris, comme on a passé une excellente soirée avec Jean-Michel
écoute.
Le lendemain.
Chris, coucou et, Chris.
Et voilà, et Chris est un tueur et il a tué deux tympans. Voilà.
Ah ouais, c'est vrai qu'effectivement, ouais, il chante haut. Ouais, c'est vrai qu'il se débrouille, hein, il y va, il envoie, c'est bien ce qu'il fait, il est courageux en tout cas.
Moi je trouve que
c'est très courageux.
Je lui ai dit, et c'est, voilà, il est tout ce qui a été fait pendant le confinement et ces dernières semaines a été fait par Chris avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir. Moi j'ai apprécié, je sais que vous avez apprécié aussi. Je pense que les auditeurs qui ont regardé les vidéos de Chris ont apprécié aussi. Donc voilà, mais c'était super, c'est très très bien. Juste derrière, il a ressorti un acoustique avec Dreamcatcher dimanche ouais. pour la fête de la musique, où le morceau est très bien aussi, puisqu'il a repris le morceau Dreamcatcher en acoustique avec son groupe. Donc c'est ouais. une très bonne initiative et on remerciera jamais Chris pour le temps passé. Comme nous, on en passe beaucoup, lui en passe aussi beaucoup pour faire ça.
C'est un boulot de fou, hein. Faut quand même.
Et vu la technique de ce qu'on a passé pour caler les morceaux, apprendre les titres, voilà, c'est un très gros travail. Et les gens ne se douteront jamais assez du travail que ça représente pour Chris. Donc Chris, si tu nous écoutes. Bravo.
Il nous écoute, il y est, il est là.
Ouais, en fait, ouais, comme je vous l'ai dit, hein, je l'ai trouvé très très courageux. Chris, s'il te plaît, il faut que tu me répondes. Pourquoi Bruce Dickinson, il nargue Napoléon lorsqu'il joue The Trooper à Paris, s'il te plaît? Tu peux lui demander qu'il arrête? S'il te plaît, tu peux lui demander quoi. En plus, il habite pas loin, quoi. Donc, tu peux lui demander qu'il arrête de brandir le drapeau de l'Union Jack, c'est ça, ouais. Et parce que voilà, quand il y a Napoléon qui est à côté, voilà. Quoi. Et lui, il adore ça, Bruce Dickinson. Donc, faut que Chris il nous réponde à cette question-là, quoi. Voilà, pourquoi il fait ça à chaque fois.
C'est pas pour une histoire de bataille gagnée par rapport aux Français qui ont perdu. Et
Waterloo.
Niqué quelques... Bah voilà.
Mais bah, tu sais que tu connais Bruce Dickinson, c'est un féru d'histoire et en même temps, c'est un grand moqueur. Il adore l'humour, quoi. Et à chaque fois sur The... alors. Il le fait à travers le monde, je sais. Il le fait à tous les concerts dans le monde. Il sort The Trooper, il sort le drapeau. Ok. Mais à Paris, il y a une connotation spéciale. Il y a une connotation. Et connaissant Bruce Dickinson et le fait qu'il soit très calé en histoire, ça, c'est toujours une joke, quoi. Et derrière, t'as toujours les fans qui chantent The Trooper avec le bras levé. Mais moi, je dis quand même, c'est gonflé, quoi. Le mec, il y a Napoléon qui est pas loin et l'autre, il sort le drapeau, quoi. C'est à Paris, hein. À Paris. Au cœur de Paris, quoi. Voilà. Voilà. Façon ADX. Ok.
Il est moquard.
Ouais. Allez, next. Ah, t'en as bien une bonne, là. Si, il y en a une bonne, là.
Juste pour finir sur les concerts et les annulations de concerts. Donc, après Epica et Apocalyptica, il y a aussi l'annulation de la tournée Evanescence et Within Temptation. Et donc, la tournée est reportée à septembre 2021. Dans presque un peu plus d'un an maintenant, et la date de Paris, elle est au 20 septembre. Voilà. Donc, c'est aussi. Tout est redécalé, même si ça devait être là en septembre-octobre de cette année, bah, c'est carrément. Ça reprend un an d'un coup d'un seul, donc ça rebondit sur les problématiques de ce que vous avez discuté vaillamment
ouais,
pendant
ouais.
20 minutes.
Et moi, je souhaiterais terminer là-dessus. Le White Snake. Oh, qu'est-ce qu'il est bien! Mais qu'est-ce qu'il est bien. Chris Collier, il a tout déchiré sur ce coup-là, quoi. Il a
ouais.
Donc le son de batterie a été refait, d'accord, ok. Je pense qu'ils ont touché les guitares, je pense, parce que je suis en train de réécouter, je suis en plein dedans, hein, j'écoute, je tends vraiment l'oreille et tout, et j'essaye de séparer un petit peu, j'essaye d'écouter, et j'écoute la version originale, je pense que les guitares ont été retouchées, quoi. Mais en tout cas, c'est très bien fait, quoi. J'ai vraiment, ouais. Il y a plus de dynamique encore, c'est vraiment bien fait, quoi. J'ai vraiment aimé,
moi,
quoi.
Qu'un tout petit, parce que je suis grand fan de Whitesnake quand même, je trouve que c'est un peu trop. Là, cette sortie de cette trilogie qui pour moi n'apporte absolument rien. Il y a pléthore de coffrets qui viennent de ressortir. Il a ressorti presque tous ses albums dans des coffrets magnifiques. Et ressortir encore une compilation de titres réenregistrés, réamérangés, même s'ils sont très bien. On parlait tout à l'heure de gens qui se gavent sur les concerts. Là, cette collection-là, même si elle est très bien, et je te crois, je n'ai pas écouté l'album, je l'ai, mais je ne l'ai pas encore écouté. Voilà, je suis un tout petit peu mitigé sur le fait qu'il y a encore une série de compilations de Whitesnake qui sortent.
Écoute,
qui vient de sortir. J'ai même pas fini encore d'écouter tous les coffrets qui viennent de sortir. Donc,
alors, deux choses. Déjà, il y a eu l'album chez Frontiers qui est sorti. Et maintenant, avec un peu de recul, je peux t'annoncer quand même qu'ils se sont trompés de single sur ce disque, quoi, tu vois. Pourquoi ils ont pas le single favori qui était top sur donc l'album sorti chez Frontiers, le dernier en date, c'était Well I Never, qui était du pure Whitesnake. Bon, finalement, je pense qu'ils l'ont pas fait. Ok, ils ont sorti d'autres titres de l'album. Très bien. Là, sur le dernier, sur ce qui vient de sortir, donc, c'est pas chez Frontier, c'est quoi? C'est un autoproduit? Qu'est-ce que c'est, Oli? Parce que j'ai pas du tout capté
non,
le label.
Non, c'est le label. Attends, j'ai plus en tête là tout de suite. Si tu me laisses deux secondes, je le trouve. Mais c'est Deluxe Edition. C'est un truc un peu spécifique. Hein.
Ah d'accord.
Ouais, donc du coup, ma question c'est ça. C'est est-ce que c'est vraiment le groupe qui fait le bazar ou est-ce qu'encore une fois c'est le label qui est en train de prendre
Non. Là, pour le coup, David Coverdale communique dessus. Donc non, il a bien. C'est un truc du groupe en dehors de
Frontier, quoi.
Je sais pas.
Ouais, c'est en dehors de Frontier.
Sur un truc qui s'appelle Deluxe Edition, c'est là où on retrouve pléthore de triple CD, double CD et ainsi de suite qui ressortent réenregistrés. Il est sorti, c'est les super Deluxe Edition. Qu'est-ce qui est sorti? Il y a un Roger Waters qui est sorti.
Donc c'est le back catalogue. C'est un label qui est spécialisé dans la réédition du back catalogue version Deluxe. Donc c'est ça.
Ouais,
okay.
Voilà. Exactement. Il y a par exemple en exemple, il y a du Bob Weller, il y a du Bob Marley qui va sortir, il y a Roger Waters, il y a les Pet Shop Boys, il y a les Rolling Stones, il y a David Bowie, voilà, c'est du back catalogue refait, c'est des box, c'est des trucs comme ça, c'est des triples.
Ouais, donc là, on est d'accord, ça s'adresse aux collectionneurs, c'est-à-dire c'est des gens qui sont déjà friands d'objets au départ.
Ouais.
Parce que techniquement, si tu veux écouter le son, si tu réécoutes les rééditions effectivement sur les plateformes, ça te coûtera pas plus cher.
Non, mais Olivier a donné sa version. Ok, il a donné sa version. Moi, je te donne la mienne. J'ai vraiment aimé. J'ai tellement écouté Whitesnake. Enfin, tout s'est tellement écouté Whitesnake que là, j'ai trouvé des titres avec beaucoup plus de dynamique. Donc ça, c'était vraiment cool, quoi. Voilà, quoi. Voilà. Je trouve qu'il y avait un très beau boulot là-dessus, quoi. Voilà.
Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que c'est trop avec les coffrets qui sont sortis.
Parce
qu'il y a les coffrets, à chaque fois, il y a 5 ou 6 CD à écouter. Il y a les 4 albums un peu... voilà,
finalement,
Olivier. L'album Serpent et ainsi de suite, ça fait trop.
Olivier, finalement, est-ce qu'un coffret, c'est fait pour être écouté, sincèrement? Est-ce que c'est pas un objet que tu vas mettre dans ta collection parce que c'est plus pour plus pour le design que tu vas l'acheter que pour la musique à l'intérieur, puisque les albums, tu les as depuis de nombreuses années?
Oui, mais... À la rigueur, je réécoute pas l'album en tant que tel parce que tu sais très bien que ma collection elle est quand même voilà. Mais
disons-le, t'en as une grosse collection. Il faut le dire quoi.
Attends. Qu'est-ce que tu as dit en dernier là?
T'as une grosse collection, faut le dire.
J'ai une grosse collection.
Non mais il y a rien. Voilà, il en a une grosse. Moi j'en ai une plus petite. J'en ai pas mal, mais elle est plus petite, quoi.
Mais des fois, je prends pas le plaisir à réécouter l'album mythique. J'adore aller écouter les démos, les face B, peut-être un album live qu'ils vont avoir retravaillé dans le
Style Edition. Les face B sur les CD, c'est rare en plus.
Oui, mais il y en a beaucoup. Je vois où tu veux nous amener. Mais il y a quand même beaucoup de 45 tours qui sont sortis à l'époque avec des face B qui sont... qu'on n'a pas spécifiquement acheté. Bon, moi j'ai beaucoup de 45 tours de Whitesnake, donc les phases B je les connais, mais par exemple un live de l'époque, retraité, un bon bootleg retraité, travaillé et ainsi de suite, peut-être que dans le coffret c'est celui vers lequel je vais aller plutôt que d'aller écouter le Slide It In. Mais encore, le Slide It In c'est un mauvais exemple parce qu'ils l'ont tellement bien retravaillé, il y a la version américaine, voilà, il y a plein de choses à réécouter sur ces coffrets, et quand on réécoute ce type de coffret, ben, on passe un temps fou. Revoir arriver après une autre compile.
C'est mon album préféré de Whitesnake, moi.
C'est compliqué, mais Je vais l'écouter, je suis comme toi, je vais l'écouter parce que voilà, on peut pas ne pas passer à côté et pas en mettre sur la radio, tu penses bien. Mais ceci étant, je trouve que ça fait beaucoup à un moment où il y a eu beaucoup de choses de sortie pour Whitesnake. Voilà, c'est le point.
Eh bah écoutez, vous savez quoi,
il va se faire opérer aussi. Hein.
Ouais. Vous savez quoi,
il y a peut-être un...
Vous savez quoi, demain soir, 213 Rock démarrera à 18h. Voilà, à 18h. 18h30, NC Ferrum en direct. C'est Pete Lindros. Ouais. Le leader du groupe qui va.
C'est
qui
bon ça.
Ça va être cool demain soir. Donc il y aura donc ça sera 18h, 21h demain soir. 3 heures d'émission, alright?
Très okay. bien.
Ouais.
Très en bien. Plus, ça dépasse pour la gorge ou pas?
Ouais, ça va aller, t'inquiète, ça va aller. Et mercredi, Sorcerer en direct, Anders. Je l'ai eu cet après-midi, on a échangé un petit quelques mots là sur les réseaux. Ouais, le mec, il est super cool, quoi. Il a déjà hâte, quoi. Voilà, quoi. Donc, écoutez bien demain soir et mercredi soir. Voilà, quoi. Ouais. Et n'oubliez pas les albums. Ouais, et les albums sont disponibles chez Grumpy Mood, Lifestyle.com.
C'est
Jean-Mi.
Dot com.
Ouais, j'ai dit autre chose. Enfin,
bon, alors deux choses, les garçons, quand même.
Ouais, termine là-dessus parce qu'il faut quand même passer de la musique ce soir.
Sur la blague du « il n'y a pas de face B sur les CD ». Pour les gens qui aiment les musiques métal, rock, expérimental, les trucs d'instruments bizarres, les solos qui partent à esprit métal, jazzy, machin, écoutez et commandez l'album d'un homme, d'un artiste, d'un tatoué, d'un fêlé qui s'appelle Naked Tattoo Guy, le mec tatoué tout nu. Son dernier album est un CD double face. CD d'un côté, il me semble vinyle de l'autre. Donc il y a effectivement une B-side. Pour votre information, c'est français. Il nous vient de Nancy. Messieurs, dames. Voilà. Mais alors, vraiment, c'est barré. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est vraiment barré. Hein. C'est de l'instru vraiment perché, mais c'est très, très drôle à écouter. Deuxième chose, je ne vous quitterai pas sans vous dire que Rick Astley, vous connaissez Rick Astley,
ouais.
Celui qui nous rickroll régulièrement avec Never Gonna Give You Up.
Ouais.
Il vient de faire une reprise de Foo Fighters.
Oh mon Dieu.
Il faut savoir qu'il avait été invité en Angleterre sur une date des Foo Fighters et il avait rickrollé toute la salle en reprenant sa chanson. Et voilà, il leur rend l'appareil aujourd'hui en faisant une reprise d'une de leurs chansons et je trouve ça très très drôle. Voilà. Donc, auto-rickrollez-vous ce soir sur une reprise des Foo Fighters par Rick Astley. Et ce n'est pas moi qui suis à la programmation, sinon je vous quittais sur cette émission en vous mettant l'original de Never Gonna Give You Up pour que vous l'ayez en tête toute la soirée par-dessus toute la prog d'Arag.
Ouais,
heureusement que j'ai pas les manettes, heureusement que j'ai pas la date.
Okay. Allez, on va terminer là-dessus. Le Primal Fear, tout de suite, le I'm Alive, l'album Metal Commando, donc il va sortir en juillet. Et il y a un autre truc qui m'a surpris. Alors là, vous allez être surpris que je dise ça. Ouais, c'est le Furies. Et le titre Voodoo Chains, il déchire, il tue quoi.
Il est bien.
Ah ouais,
c'est très très bien.
Je suis d'accord, c'est très très bien. Ouais, le titre m'a surpris. J'ai cliqué dessus, je dis mais waouh, je dis waouh, eh ça déchire ce truc. Ouais, j'ai fait waouh, ça déchire.
J'ai fait waouh,
exact.
Je vais mettre ça en sonnerie de téléphone. Waouh. J'adore.
Allez, Primal Fear, I'm Alive, extrait donc du prochain album, le Metal Commando. Donc ça, c'est le second single qui sera suivi de très très paix par les Furies. C'est les deux nanas françaises, c'est ça, avec c'est un groupe français, hein. Ouais.
Ouais, avec je sais plus comment elle s'appelle, oui. La chanteuse
qui a fait Sortilège un petit peu, non, c'est ça?
Oui, d'accord. Qui était en Sortilège, qui était une très très bonne chanteuse avec une voix magnifique.
Bah écoute,
et là, le morceau est très très bon, donc j'ai hâte d'écouter l'album. Voilà.
Ouais, l'album s'appelle, je crois que s'appelle Fortune's Gate, c'est ça? Ouais, je l'ai fait de mémoire. Ouais, c'est ça. Bah écoute, Primal Fear, Furies comme ça, enchaîné, Hell Yeah sur la Webrock Station, c'est parti en musique, 213 Rock.